Les colloques du Collège de France.
Bonjour, et d'abord je vais commencer en remerciant Thibaut et Nalini pour leur invitation qui m'honore beaucoup. Et c'est aussi un grand plaisir de parler dans ce colloque sur les géométries aléatoires. Alors, je pense que les exposés de ce matin, et j'ai malheureusement raté l'exposé d'Adrien parce que j'enseignais, étaient peut-être plus proches de ce que je connais, mais j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à écouter les exposés d'hier, qui étaient sur des aspects que je connaissais moins, et je ne sais pas si à un moment il y aura des connexions possibles. Mais j'essaierai de parler de connexions avec en tout cas les quelques exposés d'aujourd'hui. Et voilà. Alors, quel est le plan de mon exposé ? Donc, je vais vous parler d'une série de travaux de ces dernières années que j'ai effectué en collaboration avec d'abord Emmanuel Guiter et Grégory Miremont de Lyon. Et puis maintenant, nous avons un doctorant, Hugo Manet, avec qui on a différents projets liés à ça. Bon, je ne dirai pas quel résultat vient d'où, mais on verra. Mais à la demande, Nalini nous a demandé d'essayer de donner du contexte. Donc le plan de mon exposé va être quand même une grande partie d'introduction, définition, d'histoire, de motivation. Ça m'occupera une partie du temps. Je présenterai aussi un ancien résultat qui remonte à ma thèse sur une généralisation d'une bijection qui était due à Cory Vauquelin-Schaeffer, donc que j'ai obtenu en collaboration avec Philippe Di Francesco et Emmanuel Guiter, entre les cartes planaires et arbritiques T. Donc c'est pas un résultat très récent, mais je pense que c'est bien pour mettre le contexte aussi, peut-être. Peut-être au moins ça c'est quelque chose que vous pourrez retenir, qui semble qu'il faut commencer par les choses simples. Et puis après, j'entrerai dans les travaux récents sur l'énumération des cartes bords géodésiques. Je présenterai d'abord des résultats généraux, et puis une approche bijective qu'on a obtenue dans le cas des cartes qui sont la topologie des pantalons. Et puis je vais conclure en essayant de peut-être de faire le lien avec le sujet du cours de Nalini et en parlant de quelques analogies entre les cartes et les surfaces hyperboliques aléatoires. Alors pour commencer, on va commencer ici, comme on va faire des définitions. Et en fait, vous avez eu, peut-être tout le monde n'a pas vu l'exposé de Bertrand Hénard ce matin, dans lequel on ne s'était pas trop coordonné, puis en fait vous allez revoir un peu la même chose. Peut-être pas avec le même nom, parce que moi j'utilise le terme de carte, et je crois qu'il me semble que Bertrand a utilisé le mot de surface discrétisée. Et je vais, juste pour être sûr qu'on ait tous et toutes les définitions en tête, je m'intéresse aux cartes au sens de la combinatoire. Donc une carte, c'est un objet combinatoire qu'on peut définir de plusieurs façons. Et bon, Bertrand a fait des démonstrations ce matin avec du papier. J'ai pas de papier, mais j'ai des dessins. C'est soit une surface qu'on obtient comme des recollements de polygones. L'exemple le plus simple à quoi de penser, c'est quelque chose que vous savez sans doute faire, qui est de construire un cube en découpant une feuille de papier, en faisant un patron avec 6 carrés, puis vous les recollez, puis hop, vous avez un cube, ça fait une surface. Et c'est un peu cette idée-là. On prend des polygones, bon, on va supposer réguliers, a priori, c'est pas tellement la forme des polygones, n'importe peu, ce qui est la structure combinatoire qui nous intéresse. Et on fait des recollements entre les bords de ces polygones réguliers. Donc là, à gauche, voici un exemple de recollement possible. Vous avez deux triangles, et vous les recollez bord à bord de la façon suivante. Et ça vous fait une surface, ça construit une surface qui est en fait homéomorphe à la sphère. Et en déformant un peu, je peux la représenter comme ça. Là, vous voyez, vous imaginez à la droite, j'ai le dessin de la sphère. Et dessus, j'ai... Alors, je n'oublie pas le dessin du polygone, ça c'est important. Le polygone apparaît toujours. Donc j'ai un triangle qui est le triangle bleu que j'avais. Et le triangle blanc, en fait, c'est le reste de la face. Et c'est le reste de la sphère. Et ça, c'est un recollement. Je profite... alors, voyons un autre exemple. Je prends les mêmes pièces, mais je fais un recollement un peu différent. Là, vraiment, c'est comme Bertrand avait fait avec des carrés, mais là, je le fais avec des triangles. Je fais un recollement où, cette fois, je m'amuse à recoller un des triangles sur lui-même, et ici aussi. Eh bien, l'objet que j'observe, c'est toujours une sphère. Et... mais simplement, vous voyez, il y a ce triangle, on l'a recollé sur lui-même, le triangle bleu, et de même, symétriquement, le triangle blanc qui fait l'extérieur est comme ceci. Et puis, il y a un dernier cas possible, qui est celui où on fait des croisements, enfin, on fait un croisement qui est non planaire, et là, la surface qu'on obtient n'est plus homéomorphe à la sphère, mais c'est un tore. Et peut-être le dessin, je pourrais essayer de représenter le tore comme on le fait avec un pneu ou avec un... Mais sinon, c'est simplement, on peut imaginer un carré qui est subdivisé en deux triangles, et puis j'ai des identifications par bord opposé, c'est un tore. Un petit peu de terminologie en passant. Les objets qui constituent une carte, c'est les sommets, les arêtes et les faces. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Mais que, donc ce point de vue de surface obtenue par recollement de polygones réguliers, il y a un point de vue équivalent qui consiste à dire qu'en fait, on a déjà la surface, qui peut être la sphère, ou le tore, ou quelque chose comme ça, une surface fermée, et dessus, on dessine un graphe. Donc, reprenons par exemple cet exemple-là. Là, j'ai un graphe qui est dessiné sur la surface, sans croisement d'arêtes, et en plus, on demande que ce soit un plongement cellulaire, c'est-à-dire que le graphe délimite des régions qu'on appelle les faces, qui sont homéomorphes à des disques. Et c'est ça la définition. Et c'est quand même pas complètement évident, mais bon, c'est quand même connu que ces deux points de vue sont équivalents. En combinatoire, il y a encore, j'ai mis etc., il y a d'autres définitions. Il y a une définition très combinatoire qui utilise les paires de permutations. Je n'en parle pas ici, mais je pense qu'il y a une analogie peut-être, mais alors c'est pas exactement la même chose, mais avec ce que Thierry Lévy a présenté ce matin sur des problèmes de... Alors c'est pas exactement la même chose, mais on peut comprendre les cartes comme des paires de... des triplets de permutations. Dont le produit est l'identité. Et ça peut se compter aussi avec des formules de type Frobenius, avec des caractères, et c'est un autre point de vue qui est intéressant. Mais je n'en parlerai pas dans le cadre de cet exposé. Donc moi, je verrai vraiment la géométrie des cartes, la géométrie aléatoire. Et bien, c'est un exemple plus grand de carte, qui sera une carte planaire. Donc on imagine qu'on est toujours sur la sphère, et dessus, j'ai ce graphe qui est dessiné. Alors peut-être je devrais souligner le fait qu'il y a une différence avec, je pense, ce qui a été vu hier. C'est-à-dire qu'il y a... la carte, c'est une surface abstraite. Je n'ai pas une sphère sur laquelle je tirerai un processus ponctuel et puis je m'amuserai à faire des choses comme ça. Non, j'ai des polygones et je les recolle. Et là, j'ai fait un dessin où mes polygones apparaissent un petit peu déformés. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les recollements, c'est juste la structure combinatoire. Le dessin, voilà, comme je disais dans le transparent précédent, c'est le plongement cellulaire d'un graphe dans une surface, mais à homéomorphisme près. On s'autorise à déformer le dessin et ça ne change pas la carte. Et ce qui fait en fait que les cartes, ça forme un ensemble dénombrable. Et donc, c'est plus facile de faire, je reviendrai là-dessus, on pourra faire des probabilités dessus sans trop de problèmes. Alors, dans cet exposé, et puis bon, le sujet sur lequel je travaille, c'est principalement les cartes planaires, c'est les cartes qui sont sur la sphère, ou éventuellement, c'est encore plus simple, on peut les dessiner dans le plan, tout ce qu'on a à faire, c'est projeter la sphère par une projection stéréographique, et ça revient juste à choisir une face externe, enfin, c'est dans lequel on place le point qu'on va mettre à l'infini. Mais on peut généraliser son problème, cette définition, et considérer des cartes. La surface, elle peut être obtenue par recollement, et donc on n'obtient pas forcément la sphère. Comme on a déjà vu, on a déjà obtenu le tore. On peut obtenir des surfaces qui sont... je vais considérer principalement des cartes sur des surfaces closes, qui peuvent être orientables ou non. Donc ici, vous voyez, j'ai fait dans mes identifications, j'ai supposé que j'avais une orientation... toutes les faces que je recolle, je leur mets la même orientation, je fais des recollements qui préservent l'orientation. Mais je pourrais faire des recollements avec des twists, hein, et obtenir des surfaces non orientables. Et c'est un point de vue qui est intéressant. On a une relation qui est très classique, hein, qui est la relation de l'aire, que le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces sera la caractéristique de l'aire, de la surface que vous obtenez. Il ne prendra donc pas vraiment de la surface. C'est un invariant par rapport à la structure combinatoire, et ce sera 2 pour la sphère. Et puis, si on veut faire des surfaces à bord, et comme il y a bord dans mon titre, je pense que c'est important d'avoir ça, je fais vraiment des recollements complets, j'oublie pas de recoller tout. Et en fait, pour moi, un bord, c'est juste une face que je décide d'appeler un bord. Mais je recolle tout, parce que sinon, c'est un peu compliqué de... Voilà. Donc là, par exemple, je pourrais dire que cette face bleue, c'est un bord. Et là, donc là, ici, par exemple, j'ai une sphère dans laquelle j'ai fait un trou qui a la forme d'un triangle. Et c'est une sphère avec un bord. Donc c'est un disque. Voilà. Alors, je me rends compte que donc, ça, vous avez déjà vu ça ce matin avec Bertrand. Ce théorème, et comme je parle d'énumération, je pense que c'est quand même important de montrer peut-être le résultat le plus simple d'énumération qui soit possible sur les cartes, qui est donc ce théorème de Todd de 1963 sur le nombre de cartes planaires enracinées à n arêtes. Alors, petit détail, carte enracinée, ce que j'entends, c'est Bertrand l'a dit ce matin, que, en fait, pour enlever les symétries de la carte, on marque une arête et on l'oriente et ça enlève toutes les symétries. C'est un problème plus simple, même si on pourrait obtenir une formule un peu plus compliquée en essayant de traiter les symétries. Et donc, la formule pour ce nombre de cartes planaires enracinées à n arêtes est une jolie formule qu'on peut écrire comme ceci. Quand on aime la combinatoire énumérative, on va l'écrire plutôt comme cela. On trouve les célèbres nombres de Catalans, le n-ième nombre de Catalans, qu'on va juste multiplier par 3 puissance n, multiplié par 2, divisé par n plus 2. Donc Bertrand a déjà écrit ce matin les termes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le terme n égale 0, qui est intéressant. Et pour l'énumération asymptotique, quand n tend vers l'infini, on a un équivalent qui est facile à calculer, hein, avec le nombre de Stirling. Voilà, il y a 2 sur racine de pi, 12 puissance n, sur n puissance 5 demi. Et je ne l'ai pas mis en rouge, mais la partie la plus intéressante est l'exposant, n puissance 5 demi, parce que c'est en fait un exposant qui est universel, c'est-à-dire que si on a regardé des cartes à n-arêtes, mais on pourrait regarder des triangulations avec n faces ou voilà, des quadrangulations, des choses comme ça, et on retrouvera ce qui, le reste, la préfacteur, la constante dans l'exponentielle va changer, mais le n puissance 5 demi, il est très robuste, et il faut chercher pour aller pour le modifier. Et voilà, j'en discuterai un petit peu. Alors, pour ce que je vais dire après, je vais montrer en fait une version un peu plus générale, une formule un peu plus générale, et qu'en fait Tutte a obtenu avant et l'autre il l'a obtenu par corollaire. C'est une formule qu'on appelle la formule des slicing de Tutte, parce que son article, il appelait pas ça des cartes à l'époque, il appelait ça des slicing. Et donc c'est une formule plus générale, multivariée, avec plusieurs paramètres. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de compter les cartes planaires qui sont biparties. Alors biparties, dans le plan, ça veut simplement dire, on pourrait dire que c'est un graphe biparti, mais c'est équivalent dans le plan au fait que toutes les faces aient des degrés pairs. C'est utile pour avoir une belle formule comme ça. On peut évidemment énumérer des cartes avec des degrés, de phases de degrés quelconques, et essayer de contrôler les degrés, mais ça ne donnera pas une aussi belle formule. Et voilà, alors quel est le problème? On regarde les cartes planaires biparties enracinées, et au lieu juste de fixer la taille au sens du nombre d'arêtes, on va essayer pour chaque degré possible de face, et les degrés sont pairs, donc c'est degré 2i, on va se donner un nombre fi de faces. Et bien, si je me donne cette prescription d'une suite de degrés possibles, support fini évidemment, on a une belle formule dans laquelle on a le produit des 1 sur fi factoriel, des coefficients binomiaux, et puis un préfacteur devant que j'écris pour plus de lisibilité comme le nombre d'arêtes, la factorielle du nombre d'arêtes divisée par la factorielle du nombre de sommets, mais c'est des paramètres qui sont donnés par par des arguments de comptage, l'aime des poignées de main et la relation de l'air, en fonction des nombres de phases de chaque degré. Et en fait, ce résultat est plus général que le précédent, puisque en fait, si on le spécialise aux cartes qui sont des quadrangulations, c'est-à-dire que des faces qui sont formées que de sommets de degré 4, que de phases de degré 4, on compte les quadrangulations qui ont n faces, et je vous laisse vérifier que donc, ça veut dire quoi? Vous prenez f4 égale à n, et tous les autres f nuls, vous allez trouver, le seul terme qui survit, ça va être binomial 3,2 qui est égal à 3, et donc c'est le 3 puissance n qu'on avait là, et puis les autres facteurs, ça va faire les factoriels, enfin les nombres de catalans qu'on cherche. Et alors, on a compté la quadrangulation n face, mais la dernière remarque, c'est qu'en fait, c'est la même chose que compter les cartes à n arêtes. Et ça, bon, ça c'est un petit, une bijection que Tutte connaît, c'est si vous prenez une carte quelconque, ici, là, je vous fais quelque chose qui ressemble, qui va être en fait une triangulation. Okay, donc là, c'est une carte quelconque qui a n arêtes. Et bien, il y a une construction qu'on peut appeler la carte radiale, qui consiste dans chaque face à... Je vais prendre une couleur rouge, un peu plus visible. Dans chaque face de ma carte, je rajoute un nouveau sommet. Et puis, je relie de toutes les façons comme ça. Je fais ça pareil ici. Ici, je fais ça. Et puis, il ne faut pas que j'oublie la face externe. OK. Et bien en rouge, vous avez une quadrangulation, et en blanc, c'était une carte quelconque. Okay. Et est-ce que si vous réfléchissez un peu, ben vous voyez que voilà, c'est une quadrangulation, puisque une arête de la carte se retrouve, de la carte blanche originelle, se retrouve entourée de deux sommets comme ça, puis vous avez fait ça comme ça, et hop, vous avez fait apparaître un carré de là. La quadrangulation. Donc c'était une bijection, première bijection, qui est assez, assez évidente. Ok. Alors je vais dire un mot sur l'approche de Tutte, et en fait c'est... Alors vous n'avez pas vu la même équation dans l'exposé de Bertrand, mais c'est une équation très proche. C'était, l'approche de Tutte n'était pas du tout directe. Bon, il utilisait des séries génératrices, essayer de rassembler, comme l'a expliqué Bertrand ce matin, tous les nombres, par exemple, tout ceci, on les rassemble dans une série génératrice, et puis on va essayer de trouver une équation qui détermine la série génératrice. Et alors, il y a une difficulté quand même dans l'approche à laquelle on peut penser, je ne lis pas mon transparent dans l'ordre, c'est qu'on est obligé d'introduire une variable supplémentaire, qu'on appelle une variable catalytique, donc, a priori, on ne voulait pas, on voulait simplement compter le nombre le but était de compter le nombre de cartes planaires qui ont n arêtes, qui sont enracinées. Et donc, l'indice n, c'est le nombre d'arêtes. Mais on ne peut pas le faire ça directement, a priori. On est obligé d'introduire une variable auxiliaire qui sera le degré de la face externe. Alors, par face externe, j'entends le fait que comme il y a une arête marquée, on peut prendre, ici, vous voyez, elle est orientée, on peut prendre la face qui se trouve à droite, et je décide que c'est ça la face externe, et je vais mettre ce paramètre supplémentaire qui va être le degré de la face externe. Et là, on a une décomposition récursive que Bertrand a déjà montré, mais que je remontre à nouveau. C'est-à-dire que si vous avez une carte avec une arête marquée et orientée, eh bien, je considère l'opération qui consiste à enlever cette arête. Et il se peut passer deux choses possibles. Soit l'arête est un isthme, et quand vous l'enlevez, ça va déconnecter la carte en deux morceaux, la carte planaire en deux morceaux. Je n'ai pas dit qu'une carte, c'était toujours supposé, enfin, c'est supposé connexe, puisque la sphère est connexe et qu'on a un plongement cellulaire. Et donc, soit vous déconnectez votre carte en deux morceaux, qui sont elles-mêmes des cartes enracinées, et soit vous ne la déconnectez pas, et dans ce cas-là, vous obtenez une autre carte enracinée, mais le degré, ce qui vous suit, c'est l'évolution du degré de la racine. Et alors, pour avoir une décomposition qui est bijective, il faut garder ces deux paramètres. Alors, en petit exercice, vous pouvez essayer d'écrire justement cette décomposition. Elle vous donne une récurrence déterminant toute la famille FNK en fonction, puisque vous enlevez une arête, ces données, ça vous calcule FNK en fonction des Fn-1, mais K', avec éventuellement le degré externe à changer, des K' quelconques. Donc c'est une récurrence sur une suite, mais on peut l'assembler de façon assez commode dans une relation fonctionnelle, puisque j'introduis cette série bivariée. L'équation fonctionnelle pour la série bivariée est assez simple à écrire. La voici. Et donc, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est que si vous extrayez le coefficient de t puissance n, u puissance k dans tous les termes de cette série, vous allez précisément retrouver l'équation qui n'est pas écrite de récurrence pour FNK, que vous pouvez vérifier. Alors, qu'est-ce qui est particulier dans cette équation? C'est une équation fonctionnelle qui n'est pas complètement évidente parce que vous voyez la variable catalytique u, bon, a priori, on aimerait bien ne plus la voir, donc on voudrait la mettre égale à 1. Et là, super, il y a un terme FT1, voilà, c'est ça que je cherche. Je cherche à déterminer F de T1, c'est ça, pour avoir la réponse à l'équation de Tott. Mais si vous essayez de mettre 1 brutalement dans cette équation, vous allez trouver F de T1 égale 1 plus 1 plus T2 carré, et là, vous allez trouver F, la dérivée de F par rapport à U exprimée en 1. Et donc, ça ne vous fait pas une équation qui est fermée, c'est même pas une équation différentielle, c'est, voilà. Et pourtant, si vous écrivez, cette équation détermine une unique série, parce que ce que je entends par série, ça veut dire qu'il n'y a que des puissances de n et k positives dans le développement, et cette équation, si vous vérifiez, elle détermine une unique solution. Et donc, c'est pas évident. Tott a deviné, je pense que essentiellement la méthode de Tott consistait à deviner la solution et vérifier qu'elle satisfait la solution. Aujourd'hui, on est passé à des méthodes plus systématiques, et donc déjà, en fait, l'approche des équations de Tott est très générale, elle s'adapte à d'autres familles de cartes, et bien d'autres problèmes, et éventuellement des problèmes qui sont... On a des équations catalytiques, on a des problèmes qui ne sont pas pour Descartes, mais d'autres problèmes de combinatoire. Donc une personne que je vais mettre en avant, c'est Mireille Bousquet-Mellou, qui, avec ses collaborateurs, a énormément travaillé sur les équations fonctionnelles à variables catalytiques, une ou deux variables catalytiques, et elle a développé toute une théorie qui donne des méthodes aussi bien théoriques, mais aussi effectives pour comment résoudre en pratique une équation, trouver les solutions. Donc ça c'est une première approche, qui est peut-être l'approche historique de Tott, qui suit l'approche de Tott de combinatoire. Et puis, il y a le parallèle et... Une autre remarque, c'est que les équations de Tott, et ça a encore été dit par Bertrand ce matin, ça permet d'aller au-delà du cas des cartes planaires et d'énumérer les cartes sur des surfaces qui sont non planaires, et ça fait une récurrence sur l'opposé de la caractéristique de l'air. Si vous connaissez le cas planaire, est un peu le cas d'initialisation, et puis après, si vous voulez la carte torique, etc., ça s'obtient, et c'est donc un peu l'idée de la récurrence topologique. Juste pour avoir l'idée du dessin, c'est toujours cette même idée, mais ici on suppose que dans les espèces de blobs rouges là, qui symbolisent une carte avec un bord, eh ben, éventuellement il y a des anses, il y a du genre plus élevé, et quand vous déconnectez par exemple cet événement là, si le genre total c'est G, ça doit se répartir, le genre doit se répartir entre les deux choses comme ça, et puis là pareil on peut aussi faire tomber le genre, et si vous faites bien l'exercice, vous retrouvez exactement l'équation qu'a écrit Bertrand ce matin. Et voilà. Ces équations sont les mêmes que ce qu'on appelle dans le contexte des intégrales matricielles, ce qu'on appelle les équations de boucle, les équations de Schwinger-Dyson. C'est la même équation, mais qu'on peut faire apparaître dans différents contextes. Et il y a eu énormément de travaux, et Bertrand est un des grands contributeurs dans ce domaine, à essayer d'étudier ces équations avec le genre, et ça a donné lieu à la théorie de la récurrence topologique. Alors, pour pas le faire rougir, je n'ai pas mis sa photo, mais j'ai mis la couverture de son livre, qui est un peu un de mes livres de chevet, là, que j'ai mis sur les formules, les formules d'énumération de surface. Et j'essaie de voir ces formules et j'essaie d'en donner des preuves combinatoires, des preuves bijectives, et peut-être je vais en dire un mot. Puisque je parlais d'intégrale matricielle, on est toujours dans l'idée de faire du contexte. Je dis un mot sur les intégrales matricielles, puisque c'est un peu mon ancien laboratoire, c'est l'Institut aussi de physique théorique de Saclay, et je dois rendre hommage à mes glorieux ancêtres, que sont Brézin, Hixson, Parisi et Zuber, qui ont, en 1978, ont écrit un papier fondateur sur un peu le domaine des intégrales matricielles, qui suivait en fait qui partait d'une observation qui avait été faite par Toft en 1972 et qui d'ailleurs était fait un lien aussi avec l'exposé de Thierry Lévy ce matin, puisque Toft, sa motivation était d'étudier les théories de jauge SUN et dans la limite où N tend vers l'infini. Et l'idée de Toft était qu'en fait ces théories et la limite N grand pour un grand groupe de jauge est plus simple parce qu'il y a moins de diagrammes de ce qu'on appelle les diagrammes de Feynman. On obtient ce qui domine, c'est les diagrammes planaires, le genre zéro. Et alors Brézin, Hixson, Parisi et Hubert, on dit ok, prenons le cas d'une théorie de champ qui aurait zéro dimension, il y aurait juste l'espace serait réduit à un point, c'est ce qu'ils écrivent ici, j'ai juste pris une copie de leur papier. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça devient des matrices, il n'y a plus de champ. Ce qu'on fait, c'est qu'on intègre sur l'espace des matrices hermitiennes avec la mesure de Lebesgue, et on essaye d'intégrer une mesure qui est invariante par UN. Et donc, on prend une partie gaussienne, E puissance moins 1,5 de trace de M2, puis une partie non gaussienne, G sur N trace de M4, et puis on fait un développement perturbatif. Et ce qui est observé, c'est que on fait la limite quand grand N tend vers l'infini, donc à la fois la taille des matrices, et puis bon, vous observez qu'il y a aussi, pour des raisons techniques, ce paramètre aussi là, le grand N apparaît là, on fait cette limite-là, et l'argument est qu'en fait, ça se comporte à l'ordre dominant comme l'exponentielle de moins N carré fois E0 qui serait une énergie broplanaire et qu'en fait essentiellement une série génératrice de cartes. Et ils font cet argument par les diagrammes de Feynman et à la fin de leur article ils se disent bon, ben, en fait il y a le même résultat dans les articles de Tutte. Mais voilà. Alors cette remarque, bon, je vais pas commenter sur les travaux pour rendre ceci. Au départ c'était pas du tout rigoureux, mais maintenant on comprend qu'il y a des choses qu'il faut prendre G comme une variable formelle et un certain nombre de choses pour rendre ça plus mathématiquement rigoureux. Mais je voudrais continuer sur cette contribution de la physique théorique et le point de vue sur ça a précédé une grande révolution des années 80. Et peut-être je dois mettre la citation. Peut-être on peut l'attribuer. Cette a sans doute été lancée par le papier de Polyakov en 1981, celui qui lance la théorie bosonique des cordes. Alors j'ai mis la citation de son extrait de son papier qui est en anglais, je ne l'ai pas traduite, je vous laisse la lire. Je pense qu'il faut avoir une certaine confiance en soi pour écrire ça, mais je pense que l'avenir lui a donné raison parce que ça a vraiment été un travail fondateur qui a lancé plein d'approches différentes. Alors dans son article il propose ce qu'on appelle aujourd'hui la gravité quantique de Liouville et puis l'approche par les théories conformes. Et d'ailleurs, il me semble qu'au séminaire Bourbaki de samedi, il y a un exposé pour les personnes qui vont au séminaire Bourbaki de Martin Herrer sur les constructions probabilistes de la gravité quantique de Liouville. Et voilà. Une deuxième approche qui est peut-être liée donc à la géométrie énumérative, à la question des noms d'intersection, et peut-être ce qu'on peut appeler la gravité topologique, peut-être pour donner des noms, dans ce domaine-là, je rentrerai la fameuse conjecture de Witten sur les nombres d'intersections qui a été prouvée par Kontsevich, enfin on trouve des tas de gens qui ont travaillé dans ce domaine-là. Et la dernière approche, qui est celle dont je parle aujourd'hui, c'est une approche par discrétisation, c'est-à-dire que le but c'est d'essayer de définir une somme, comme vous voyez ici, une somme sur les surfaces aléatoires. Et ben, quand on est un peu naïf, et Polyakov n'y croyait pas au début. Il ne pensait pas qu'on pouvait étudier des surfaces aléatoires en les discrétisant, en disant, bon, ben, okay, plutôt que d'essayer de faire une somme sur les surfaces de Riemann, je vais faire une somme sur les triangulations, des choses comme ça. Et ben, on a tenté quand même, et après il y a des gens à la suite, j'ai pas écrit de nom, mais Kazakov, François David, Ambjorn, Jan Ambjorn, etc. On posait ça, et puis ils avaient à leur disposition l'outil des intégrales de matrice pour pouvoir mener des calculs très efficacement. Et alors, j'ai pas une citation, mais il y a un article un peu de Polyakov des années plus tard où il revient sur l'histoire et il dit que une de ses plus grandes surprises était de se rendre compte que, donc il pensait que c'était beaucoup trop naïf cette approche. Et en fait, en 1986, il y a eu deux coïncidences de deux papiers. Il y a un papier qui venait de la théorie de Liouville, c'était ce qu'on appelait les relations KPZ, Knijnik-Polyakov-Zamolodchikov, qui étaient des prédictions sur des dimensions, enfin des exposants critiques prédits par les théories conformes. Et en parallèle, Kazakov a résolu le modèle d'Ising sur les cartes aléatoires, et il a calculé par l'approche des cartes aléatoires, enfin les intégrales de matrice, il a calculé les exposants critiques. Et il y avait une coïncidence, c'était les mêmes. Et voilà. Et ça montre qu'en fait, bon, peut-être on pourrait dire que ce n'est pas mathématiquement rigoureux, mais qu'en fait, c'est deux points de vue qui sont équivalents, et on décrit la même chose par deux approches différentes quand on prend une certaine limite. Mais je mentionne que c'est quand même, si on veut faire des... Il y a encore plein de sujets de maths pour aujourd'hui pour essayer de rendre ceci précis. Autant il y a des constructions très rigoureuses de la théorie de Liouville, internes à la théorie de Liouville, on fait des choses très rigoureuses sur les cartes aléatoires, mais je crois que principalement pour lier par exemple les deux, c'est des conjectures. C'est des conjectures. Donc voilà, je pense que c'est un domaine qui est intéressant. Alors, cartes aléatoires. Parlons de cartes aléatoires, et maintenant j'arrive avec... je ne vais pas non plus beaucoup parler de cartes aléatoires, mais comme je l'ai dit, l'ensemble des cartes est dénombrable, et donc on peut facilement mettre des mesures de probabilité dessus, il n'y a pas de besoin de trop se poser de questions. Et donc par exemple, la mesure la plus simple à étudier est en fait la mesure uniforme sur les cas d'angulation planaire à n faces. C'est un ensemble fini, vous en avez le nom, on l'a vu. Bon, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut essayer de caractériser les propriétés de ces cas d'angulation, et puis après de prendre une asymptotique, de prendre la taille de la case d'angulation, le nombre de faces, le faire tendre vers l'infini. Je ne cite pas beaucoup de noms ici, parce que c'est vraiment un énorme sujet. Pour vous donner un peu d'idée, j'ai piqué cette simulation à Jérémy Bettinelli, qui je pense est une simulation d'une grande case d'angulation aléatoire, peut-être avec 50 000... je pense que c'est une case d'angulation, oui, on doit voir que c'est des carrés avec 50 000 carrés. Alors... C'est une carte qui est plongée dans l'espace, mais le plongement n'est pas intrinsèque à la carte, donc il y a un algorithme qui essaie de le plonger, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'on voit bien qu'il y a une structure fractale dans cet objet, et un des enjeux, c'est de comprendre cette structure fractale. Alors, si je dois ranger ces nombreux travaux qui ont en fait occupé les 20 dernières années, peut-être je peux dégager deux axes, deux points de vue principaux. Le premier, c'est celui des limites d'échelle, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de voir apparaître une surface continue. Donc ce qu'on fait, c'est que la carte est à l'origine une surface discrète, mais quand on fait tendre n vers l'infini, on va le paramètre d'échelle qui va être la longueur des arêtes. En fait, un point que je ne précise pas, c'est qu'a priori, les arêtes, elles ont toutes une longueur unité, la longueur de toutes les arêtes est 1. Et parce que, voilà, je reviens dessus dans un instant. Et donc on va redimensionner cette longueur, au lieu de mettre 1, on va mettre une certaine puissance de L appropriée, et on va faire tendre ce N vers l'infini et la longueur des arêtes conjointement vers 0, de façon à garder un objet qui obtenir une surface compacte, une surface qu'on voit dans son entier, dans la limite. Et voilà, c'est ça le point de vue des limites d'échelle. Un deuxième point de vue, celui des limites locales, et on a vu les limites locales hier, la notion de limite locale dans l'exposé de François Batchelli hier. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde chaque arête de longueur 1, mais comme la taille tend vers l'infini, on regarde juste ce qui se passe au voisinage de la racine. Ce qu'on va obtenir, c'est une carte aléatoire, mais qui va être infinie. Et alors, c'est sympathique d'étudier ces objets-là, parce que les cartes aléatoires infinies, elles ont des propriétés d'invariance, qu'on appelle la propriété de Markov spatiale. Donc, elles sont, en un sens, leur étude peut être parfois plus simple que celle des cartes finies. C'est un peu l'idée de la limite thermodynamique. Alors là, il y a quand même du monde qui a travaillé, mais je dois mettre en avant, peut-être c'est un point de vue qui a été lancé par Omer Angel et Odette Stram. Initialement, Nicolas Curien a beaucoup contribué, il a donné un cours à Saint-Flour, et il a même donné un cours PECO ici, je crois. Et donc il a donné deux cours sur l'étude des cartes, des limites locales de cartes en utilisant la technique de l'épluchage. Ça, c'est des approches pour le cas planaire. Et puis, on peut aussi s'intéresser aux limites locales de cartes de grand genre. Et là, il y a des travaux très récents de Thomas Budzinski et Baptiste Louf qui montrent que la limite locale est en fait donnée par ce qu'on appelle les triangulations infinies hyperboliques. Donc, il y a de la géométrie hyperbolique qui apparaît dans ce contexte. Mais c'est quelque chose que je connais personnellement assez peu, mais je pense que je dois le citer quand même pour donner le contexte. Alors, je cite deux exemples de résultats sur la limite d'échelle. Alors, le résultat que beaucoup de personnes connaissent, c'est ce théorème qui a été prouvé indépendamment par Jean-François Le Gall et Grégory Miermont, qui montre que si on prend une quadrangulation planaire uniforme à une face, et qu'on munit son ensemble de sommets, le sommet c'est n plus 2 par la relation de l'air, de la distance de graphe, donc c'est la distance de graphe, ça veut dire qu'on vraiment donne une arête, une longueur de 1 à chaque arête, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette distance de graphe, on la divise par n puissance 1 quart, et donc l'ensemble, l'espace métrique va converger en distribution, alors je n'écris pas, mais au sens de la convergence de Gromov-Hausdorff, vers un espace métrique aléatoire qu'on appelle la sphère, ou la carte ou la sphère brownienne. Je mets en regard un résultat que j'ai obtenu dans ma thèse, qui était bon, beaucoup moins général, mais qui donnait une espèce de propriété quantitative, de voir vraiment, et en utilisant des propriétés d'intégrabilité sur lesquelles je ne peux pas entrer, qui donne la loi de la distance entre deux sommets tirés uniformément au hasard dans Qn. On peut montrer une convergence en loi vers quelque chose d'explicite, qui est bien une distribution de probabilité qu'on peut calculer. Voilà, c'est un résultat quantitatif. Donc, des quelques perspectives, parce que bon, sur ce très vaste domaine, je me permets de donner mon point de vue. Donc, aujourd'hui, on comprend assez bien les questions de sphère brownienne, carte brownienne, les cartes planaires non décorées, qui sont plutôt bien comprises. Mais quels sont les défis selon moi ? Enfin, selon moi, c'est qu'il y a. J'ai parlé du modèle d'Ising résolu par Kazakov, ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les cartes aléatoires décorées, c'est-à-dire ce sont des graphes, mais dessus il y a une structure supplémentaire, des couleurs, des spins et tout ça, qui ont une distribution, et on tire au hasard à la fois la configuration donc, de couleurs et puis de la carte, et donc ça fait une mesure qui n'est pas une mesure uniforme. Et la physique théorique prédit en fait que, le modèle de physique statistique qu'on met dessus, si on pense en termes de physique statistique, est à un point critique, avec des corrélations de longue portée, ça va affecter la géométrie, et on n'obtiendra pas la carte brownienne. Mais on ne sait pas encore trop, la théorie de Liouville dit des choses dans le continu, mais on ne sait pas ce que serait l'équivalent de la carte brownienne pour le modèle d'Ising. Est-ce qu'il y a une convergence, une limite d'échelle pour les cartes décorées par le modèle d'Ising critique ? Ce qu'on ne sait même pas, c'est de savoir quelle serait la dimension de Hausdorff de la limite, puisque le 1 quart, l'on inverse, c'est 4. 4, c'est la dimension de Hausdorff de la carte brownienne, ça s'est prouvé rigoureusement, mais on n'a pas de conjecture, je pense, pour ce qu'est ce devrait être la dimension de Hausdorff des cartes décorées par un modèle d'Ising au point critique. Donc pour moi, ça, c'est un grand problème qu'il faut résoudre, même s'il y a déjà des résultats, des bornes ou des prédictions qui ne sont pas forcément valables. Une autre question, j'ai parlé beaucoup de cartes planaires. Pour moi, le genre supérieur est encore moins compris, même si on a la récurrence topologique, mais on manque encore d'outils combinatoires, bijectifs, qui permettraient d'étudier ça. Donc là, c'est ce dont je vais parler dans le site de mon exposé. Puis je mentionne aussi, mais moi je ne travaille pas dessus, mais je crois qu'il y a Valentin, un homme qui est ici, qui a contribué à la suite. Donc, il y a des travaux de Rivasso, Grzan Bureau, Adrien Tanaza, pour essayer de généraliser cette idée de discrétisation en dimensions supérieures, et au lieu des matrices, on a des modèles de tenseurs colorés. À ma connaissance, je me permets de dire ça, j'espère pas qu'on ne va pas m'en vouloir, mais je ne crois pas qu'on obtienne vraiment de limite d'échelle très... On n'a pas vraiment de limite d'échelle très intéressante, c'est un grand défi, je crois, de trouver une limite d'échelle intéressante. Alors, voilà, j'ai passé 30 minutes de mon exposé à donner l'historique, et pendant le reste de mon exposé, j'ai parlé de choses qui sont plus des résultats personnels. Donc je commence par la bijection CVS-BDG, parce que c'est quand même quelque chose d'assez simple. Mes transparents passent en anglais, pour une raison que je vous laisse imaginer. Je présente cette bijection qui est en fait une généralisation d'une bijection qui a été obtenue. Alors, la formulation générale, la formulation donnée par Schaeffer d'une certaine bijection entre cas d'angulation et arbre bien étiqueté, mais qui est en fait une reformulation elle-même d'une bijection de 1980 de Robert Corry et Dominique Vauquelin. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une carte planaire, bipartie, donc les faces elles ont des degrés pairs, avec un sommet marqué, ici c'est celui qui est un petit peu plus gras, ce que j'appelle l'origine, et une arête marquée qui est la racine. Et j'oriente la racine juste par convention dans le sens qui s'éloigne de l'origine. Et qu'est-ce que je fais ? Je étiquette je rajoute dans mes sommets, je les numérote, mais je les numérote de façon canonique en mettant la distance de graphe à l'origine. L'origine à 0, les voisins sont à distance 1, et puis ensuite 2, et on arrive à un sommet à distance 3. Une petite observation, c'est qu'entre deux arêtes voisines, la différence des étiquettes est exactement de 1. Et la raison, c'est d'une part l'inégalité triangulaire, et d'autre part le fait que la carte soit bipartie, ça simplifie les choses, et c'est la différence de distance entre deux sommets voisins est exactement de 1. Et maintenant, j'observe qu'autour d'une face, ce que j'ai, c'est que j'ai une marche aléatoire simple. J'ai quelque chose, une suite d'étiquettes qui varie de plus ou moins 1 en tournant autour de chaque face. Par construction. Et on introduit une règle locale autour de cette face qui est en pointillé, ça c'est ce que je représente, c'est une face de ma carte originale. Je rajoute un sommet au milieu et je vais le relier à un certain nombre de sommets incidents de la carte. C'est un peu analogue à cette construction-là, sauf que je ne mets pas tout le monde. Je sélectionne certaines arêtes et en fait j'en sélectionne exactement une sur deux. je sélectionne les arêtes qui sont suivies d'une étiquette plus petite. Ici, j'ai l'arête, je vais vers 3 parce qu'après 3, j'ai 2, ça descend. Mais après 2, je ne relis pas parce que 2, il est suivi en tournant dans le sens des aiguilles du monde par 3 qui monte. Je monte, 4, ah, je redescends, donc là, je mets l'arête. 3, je remonte, je fais rien. Ah, là, 5, je redescends à 4, je mets une arête. Et 4, je redescends, 3, je remonte, voilà. Et avec cette remarque-là, ben, vous voyez qu'une face de degré 2K dans la carte de départ donne un sommet non étiqueté de degré K. Bon, il y a une règle qui vous dit précisément ce que vous obtenez. Et quand je fais cette recette-là dans chacune des faces de ma carte, qu'est-ce que j'obtiens? Miracle. Donc j'étais parti de ma carte de départ, hein, qui était là. J'applique ma recette dans chaque face indépendamment. Et hop, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens un arbre. J'obtiens quelque chose qui n'a pas de boucle. Il y a aussi un sommet qui reste isolé, je peux l'enlever, c'est l'origine, par construction. Et voilà. Mais sinon, le reste est un arbre, et ça peut se démontrer, c'est pas très difficile. Et ça reste un objet enraciné. Et puis, alors, chose intéressante, ça garde une information sur la distance. L'arête racine, ça va marquer, donc ça va permettre d'enraciner l'arbre, et ce que vous avez, l'étiquette du sommet racine, c'est ce que vous lisez, l'étiquette, c'est sa distance de graphe dans la carte originale. Donc ça donne une information sur la distance. Et c'est ça qui a été utilisé pour le résultat que je vous ai présenté il y a un instant. Bon, peut-être que je ne vais pas passer trop de temps, je fais une transformation, etc., j'ai une bijection. Et avec ça, cette bijection, elle donne en fait une preuve essentiellement immédiate en utilisant des résultats classiques d'énumération des arbres, de la formule des slicing de Tutte, dont j'ai parlé auparavant, puisque, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais compter les cartes qui ont des phases de degré pair, et je vais mettre FI phase de degré 2i. Donc ça veut dire que j'ai un arbre, ce que j'obtiens, c'est donc un arbre, et puis les sommets noirs, donc il y a deux types de sommets, il y a des sommets étiquetés et d'autres qui ne le sont pas. Ben, si j'ai une phase de degré, enfin je disais avant, je l'appelais K, mais si j'ai une phase de degré 2i, ça veut dire que dans l'arbre, je vais avoir un sommet de degré i. Et donc, essentiellement, ma correspondance consiste à déjà compter, donc j'ai un arbre enraciné avec exactement fi sommet de degré i pour tout i. Et ça, il y a une formule, et c'est le préfacteur, c'est 2e factoriel, etc. C'est un truc qu'on obtient. Je mentionne un point de vue qui va être utile dans la suite, c'est celui si vous préférez les séries génératrices, ça s'écrit très bien en séries génératrices. La série génératrice des arbres, ça satisfait une équation récursive par décomposition récursive, et c'est cette équation-là. Voilà. Et il y a un seul truc par rapport aux arbres qui s'ajoutent en plus, c'est de compter le nombre d'excursions, de ponts que peuvent faire les étiquettes autour d'un sommet. Et c'est exactement ce facteur binomial. Ce facteur binomial compte le nombre de façons de faire une suite qui part d'une certaine étiquette et revient à une autre. Alors vous allez me dire peut-être, j'ai une phase de degré 2i, je veux une suite d'étiquettes qui part d'un certain entier et qui revient. Normalement, je devrais avoir binomial 2ii. Mais non, c'est 2i-1i parce que vous commencez par une descente. Donc on commence par une descente et donc on a 2i-1i. Et donc voilà, enfin, de toute façon, sans rentrer, discuter tous les détails, on obtient soit cette formule-là, soit celle-là si on veut fixer les degrés, sachant que les deux sont reliés. Là, on a une expression avec les séries, mais on peut faire très facilement une inversion de Lagrange qui va permettre de calculer les coefficients de la série. C'est une série multivariée qui dépend de plusieurs paramètres. Et je trouve le coefficient correspondant donne cette formule-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'essaye de faire maintenant? Pour faire le lien avec les travaux plus récents, c'est que depuis quelques années, j'essaye de... Voilà. Qu'est-ce qui rendait les arbres sympathiques? C'est que c'est sympathique parce que c'est plus facile à compter par la structure récursive, et c'est aussi plus facile à étudier de façon probabiliste. Il y a plein de résultats sur les arbres, leurs limites d'échelle, leurs limites locales, et tout ça, c'est comme ça, ça a été le carburant qui permettait d'obtenir les résultats sur les cartes aléatoires. Mais ça pourrait être sympathique de travailler directement sur des cartes. Donc est-ce qu'on peut décomposer récursivement les cartes de façon aussi simple que des arbres? C'est-à-dire, je ne veux pas des équations catalytiques comme celles que j'ai obtenues, je veux juste que les arbres se décomposent comme des arbres, les cartes se décomposent comme des arbres. Eh bien, en fait, on a reformulé les bijections, donc Schaeffer, BDG, etc., dans j'appelle ça la décomposition en tranches. Et en fait, c'est juste de revoir les arbres. Ici, c'est vraiment un schéma. Là, vous avez en vert, vous avez un arbre, quelque chose qui est un mobile, un arbre bien étiqueté, comme j'ai décrit, et essayer de voir comment fonctionne la bijection pour revenir à une carte. Et j'explique juste ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est obligé de partir, mettons, de la racine de l'arbre, et puis d'aller remettre l'origine qui était un sommet qui avait été élevé. Et comment on fait? On fait le tour de l'arbre, et puis on saute d'étiquette. Je n'ai pas écrit les étiquettes, mais on saute d'étiquette en descendant, etc. Jusqu'à, voilà, enfin, je ne décris pas vraiment la procédure. Mais qu'est-ce que c'est, ce chemin bleu qui reconstruit la carte? C'est une géodésique. c'est une géodésique qui va de ce point-là à ce point-là, en bleu. Et donc l'idée, la seule idée que j'essaie de faire passer, c'est que l'idée des cartes, c'est de la décomposition en tranches, c'est qu'il faut couper les cartes le long de géodésique. C'est ça qui permet de faire des décompositions canoniques, des décompositions et qui vont être elles-mêmes récursives. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a géodésique. L'énumération des cartes bord géodésique, c'est pour ça que je pense que c'est un bon point de vue d'essayer de découper les cartes le long de géodésique. Alors, pourquoi c'est une géodésique? Alors, c'est. Alors, est-ce qu'on peut le voir sur cet exemple-là? Alors, reprenons. On va essayer de décrire le dessin inverse. Donc là, j'ai un arbre. Okay. Et j'essaye de retrouver la carte dont j'étais parti. Okay. Donc la carte, je la fais apparaître en pointillé. Okay. Et regarde par exemple ce qui se passe ici. Le pointillé, je prends le sommet 2. Alors peut-être par contre le sommet 3, ce sera plus intéressant. Le sommet 3, alors il faut prendre, on va procéder, le sommet 3, il a plusieurs coins dans l'arbre. Okay, on va partir de chacun des coins. Donc prenons cette direction-là. Ce qu'on va chercher, c'est qu'on va faire le tour de l'arbre et on va chercher, l'arbre il est en noir, je fais le tour de l'arbre et je cherche le premier coin qui a une étiquette inférieure à 3, c'est-à-dire 2. Okay, donc je vais trouver ce sommet-là. Okay. Maintenant de ce 2, j'essaie de repartir et de trouver un 1. Et je fais le tour de l'arbre. Je fais tout ce tour-là et là je trouve le 1. Et du 1, j'essaye de repartir, mais là, mon arbre, là, tel qu'il est construit, il n'y a pas de sommet 1 dedans. Donc, on va rajouter un sommet externe 0, et j'arrive en 0. Et par construction, ce que j'ai construit, j'ai construit un chemin de longueur 3. C'est un chemin de longueur 3 qui va de ce sommet étiqueté 3 en 0. Et c'est une géodésique. On ne peut pas aller plus vite, puisque par construction, on n'a relié que des sommets qui sont... différence de 1. Donc, vous pouvez pas faire, la construction ne peut pas produire un chemin qui va plus vite que. Qui aurait moins qu'une longueur 3. Okay, et on en construit 1. Donc, c'est une géodésique. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est ce que je schématise ici. Tu vois, ce processus de saut qui recolle, etc., c'est une géodésique. Et en fait, après, voilà. Et après, les tranches, on peut les décomposer elles-mêmes en recoupant, si tu veux, l'idée que je ne les précise pas en grand détail. C'est que je la redécoupe, je reprends d'autres géodésiques qui partent éventuellement d'autres points que celui-là, je redécoupe et ça me refait des tranches en fait, c'est des objets qui sont invariants par décomposition. Et alors en fait il y a une idée donc, que je n'ai pas présentée dans mes transparents, c'est qu'en fait bon, après l'intérêt c'est que on peut aller plus loin que juste qu'on se refait avec des arbres, c'est qu'après on peut, l'idée c'est de, mais je vais essayer de l'illustrer si j'ai le temps sur l'exemple du travail, c'est qu'après on peut essayer de découper les cartes de façon générale, et donc dans d'autres topologies, le long d'autres géodésiques. Et je vais peut-être revenir là-dessus, et sans forcément qu'on sache les arbres. Et c'est peut-être aussi, peut-être je pourrais prendre la métaphore des Lego, j'essaye de construire une boîte de Lego dans laquelle je peux construire des surfaces, des cartes, des surfaces discrètes, et j'ai juste à piocher des pièces de ma boîte, et je peux construire n'importe quoi. Et la tranche serait mon objet fondamental, et puis après on va faire des choses un peu plus compliquées. Alors, il me reste moins de 10 minutes. Voilà, donc là je rentre dans les derniers résultats. Donc un premier parti sur les résultats généraux. Donc je rappelle que des cartes à bord, c'est des cartes qui ont juste des faces, que j'appelle... Et j'essaye de compter, voilà, le problème le plus général que je pourrais compter, ça serait de compter, et c'est le problème auquel répond la récurrence topologique, ça serait de trouver le nombre de, enfin, calculer la série générale des cartes de genre G, et puis avec N bords qui ont des longueurs prescrites. C'est ça que fait la récurrence topologique, et je mets des poids qui sont ceux les mêmes que je mettais avant. Et puis, si vous lisez donc, le livre de Bertrand, ben, on assemble toutes ces séries, c'est plus sympathique de, je pense que Bertrand l'a même représenté ce matin, de faire une série génératrice, on va sommer sur les longueurs des bords, en mettant ce petit paramètre qui, pour des bonnes raisons, on va le mettre avec une valeur inverse. Et donc, c'est des WNG, c'est des séries génératrices. Après, on pourrait dire que c'est des invariants d'une courbe spectrale. Ça, voilà. C'est une méthode qui permet de les calculer de façon récursive. Et puis, une découverte de cette théorie de la récurrence topologique, c'est que toutes ces quantités s'expriment en termes de... Donc, c'est les invariants d'une courbe spectrale. Et cette courbe spectrale, ici, est vraiment déterminée par... ma série R, que j'ai la série des slicing de tot, voilà, parce que bon, je vais peut-être pas écrire, enfin il y a une courbe spectrale et on va retrouver si je l'écris avec x de z, en fait j'ai essentiellement je sais pas si c'est les notations qu'on a utilisées ce matin, alors il y a deux, dans la récurrence topologique il faut définir peut-être c'est ce que Bertrand appelait le paramètre miroir, j'inverse les variables. par rapport à ce qu'il faisait. Donc Z serait le paramètre miroir. On fait cette transformation-là, c'est peut-être pas exactement la même convention que j'utilise. Et Y de Z fait intervenir, non universel, il fait intervenir les degrés des faces, les poids des faces, mais celui-là est universel. Et ça, c'est une propriété qui est importante. Et alors Bertrand ce matin a dit oui, on peut faire les pantalons, les cartes qui ont genre 0 et 3. Donc il a donné l'équation, mais je ne crois pas qu'il ait donné la solution. Dans son livre, il y a une solution extrêmement simple, extrêmement jolie, qui vous montre la dépendance en les longueurs des trois bords. Et vous voyez un produit de coefficients binomiaux, ok. Ah, ma série R a une puissance qui est la somme des demi-périmètres, et puis la dérivée logarithmique de R. Bon, c'est quand même très simple. Alors, elle appelle une preuve combinatoire, bijective, et ah, c'est Gwendal Collet et Eric Fusy, qui est dans la salle, je crois, l'ont donné en 2012, une preuve bijective de cette formule-là. Mais quel était le point de départ? C'est, je me dis, j'aimerais bien en faire une autre preuve bijective en utilisant la théorie des tranches, les tranches. Les géodésiques. Alors, je veux des géodésiques. Alors, qu'est-ce que je pourrais vouloir? Ben ici, je voudrais par exemple que les bords soient géodésiques. Les bords bleus soient des géodésiques. Et donc, qu'est-ce que je veux dire géodésique? Ça veut dire que c'est des chemins fermés de longueur minimale dans leur classe d'homotopie. Voilà. Donc ici, par exemple, j'ai un bord de longueur 4 et vous ne trouverez pas, si vous imaginez que votre objet, c'est une surface avec des trois trous, les faces blanches ont des trous, vous ne trouverez pas de cycle plus court que 4 qui fasse le tour de cette face et qui soit homotope. Voilà. Et donc, j'ai une deuxième série que je vais appeler TG de L1 LN de façon générale pour les cartes qui ont des bords géodésiques. Ok. Et alors on peut calculer, on peut relier, on peut le calculer. Et quel est le miracle qu'on obtient? C'était une observation que j'avais eue avec Grégory initialement, et c'est Emmanuel qui nous a mis sur la voie de la preuve. Était qu'en fait elle est encore plus simple. Vous avez laissé tomber les facteurs binomiaux, donc cette formule est encore plus simple. Et là, quand on voit ça, on se dit, vraiment, il faut avoir une preuve bijective. Pourquoi la dépendance en les longueurs, c'est juste dans la puissance de la série? Pourquoi il n'y a que ça? Et puis sinon, voilà. Et voilà. Alors, j'explique pourquoi ces deux formules sont en fait équivalentes. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait dans un papier qu'on a écrit l'été dernier. C'est qu'il y a une idée qu'on appelle la décomposition en trompette. Alors, je l'appelle en décomposition en trompette par analogie avec cette idée qui apparaît dans ce qu'on appelle la gravité, JT Gravity, qui est un nouvel avatar des idées de gravité quantique, qui d'ailleurs utilise la géométrie hyperbolique. Je ne comprends pas tous les détails, mais ça apparaît dans ce papier-là. Et nous, on fait l'analogue discret de cette construction, et c'est en fait une idée très, très naturelle, c'est que quand vous avez une surface avec des bords qui sont lentement pas géodésiques, là vous voyez, ils sont un petit peu fripés, on peut toujours chercher un cycle de longueur minimale homotope au bord, et décomposer le long de ce cycle de longueur minimale, le long de cette géodésique. Et je coupe. Et je peux montrer que j'ai une opération bien définie. Donc j'ai une surface qui avait des bords non géodésiques, et je peux la décomposer en une surface avec des bords géodésiques, et puis des choses qui dépassent, que j'appelle un peu par analogie des trompettes. Et cette décomposition marche bien pour toute surface qui a une caractéristique de l'air orientable négative. Et voici le théorème que je flash très vite, c'est que ça vous donne quelque chose de combinatoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va retrouver, ça vous donne une relation entre la série des cartes à bord non géodésique et celle avec les bords géodésiques. Et si on l'écrit en termes de série génératrice, en utilisant un peu les notations de Bertrand, que vous avez eu ce matin, ça fait apparaître ces formes oméga NG, etc. Et ça, vous retrouvez ça exactement la théorie de la récurrence topologique. Et le changement d'arrêt que vous faites, c'est la récurrence de c'est cette transformation-là, c'est absolument. Ah, peut-être, écrite ici. Ça sera mieux. Voilà, ce qu'on appelle la transformation de Zhukovsky. Et notre contribution, c'est de donner une interprétation combinatoire à cette transformation qui, a priori, à l'origine, était un artifice de calcul. Et nous, on a une interprétation combinatoire. Je mentionne aussi un phénomène de polynomialité. Et il y a eu ce phénomène de polynomialité qui est apparu pour les volumes de Val-Peterson dans l'exposé de Bertrand ce matin. C'est qu'on a le même phénomène, c'est-à-dire que ce qu'on trouve, c'est que la série des cartes avec des bords géodésiques, L1, LN, sera, il y a toujours cette partie exponentielle, c'est simple, fois quelque chose qui est un polynôme en les carrés des longueurs. Donc on a le même phénomène, mais ça c'est, l'explication c'est, peut venir de la récurrence. Enfin, on n'a pas de preuve vraiment combinatoire, objective, intrinsèque. Pour l'instant, on utilise des résultats de la récurrence topologique plus notre décomposition, et on a une forme comme ça. Et c'est un phénomène général. Et quand on a quelque chose d'assez simple, on pourrait vouloir une preuve bijective, etc. Malheureusement, on ne sait pas encore faire. Tout ce qu'on sait faire, c'est le cas du pantalon. Et je flash assez rapidement l'idée de l'approche bijective qu'on a dans le cas des pantalons. qui consiste à essayer de prouver cette formule. Et ce qu'on veut montrer, c'est, donc je vous rappelle cette formule, qu'est-ce qu'elle est miraculeuse, j'ai changé les noms des variables, ABC, c'est la longueur des cartes planaires avec trois bords de longueur 2A, 2B, 2C. Et ce que je veux montrer, c'est que la dépendance en les longueurs se cache uniquement dans la somme qui est dans l'exposant. Et c'est quand même quelque chose d'assez simple. Et ben voilà, alors je n'ai pas beaucoup de temps, donc je montre juste l'idée, c'est qu'on fait une décomposition, et ça va juste vous montrer le jeu du Lego. Mon but, c'est d'essayer de trouver une décomposition de ces surfaces à trois bords en briques de base. Et ben, on a trouvé une telle décomposition, et ça fait intervenir des choses qui sont un peu liées aux tranches, que j'appelle c'est construit à base de tranches aussi, des objets que j'appelle des diangles et des triangles géodésiques. Je vous montre les triangles, allez, pour faire ça, pour faire simple. Les triangles, c'est des cartes qui ont un bord, c'est des cartes qui ont la topologie du disque, hein, avec un bord, mais les bords sont géodésiques, ils doivent satisfaire certaines contraintes pour qu'on sache bien les caractériser. Il y a un petit peu de magie, un petit peu d'intuition derrière pour faire ça, mais c'est essentiellement des cartes avec trois bords géodésiques. Bon, il y a des diangles parce que, en fait, ça n'arrive pas dans la géométrie hyperbolique, mais entre deux points, on peut trouver plusieurs géodésiques, même homotopes, qui relient deux points dans le discret. Il n'y a pas de possibilité. Et le petit détail qui est important, c'est que la dépendance en longueur se cache uniquement dans ces choses-là. Bon, je n'ai peut-être pas le temps d'expliquer ça en détail du tout, mais voilà, on fait cette
ascension. Enfin, c'est toujours des nombres entiers.
Oui, c'est des nombres entiers. Oui, c'est des nombres entiers. Voilà. Et je fais cet assemblage-là. Et voilà, et j'obtiens ça, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer. Voilà, et alors peut-être ce qui est intéressant de voir quand même, reprendre cette image-là, ça m'a permis d'arriver à ma conclusion, c'est que, en fait, c'est Bram Petri ici présent qui nous avait fait cette remarque-là, c'est que cette construction, c'est un analogue discret d'une construction qui doit être classique en géométrie hyperbolique, qui est que si vous prenez des triangles idéaux, et puis vous les recollez entre eux, comme ça, et bien ça vous fait une sphère à trois trous, ça vous fait une sphère avec trois cusps, et puis si vous faites des petits décalages, et c'est exactement ça que font l'analogue continu, c'est-à-dire qu'on va mettre des petits décalages E1, on fait une identification E1, E2, E3, et bien ça ne va pas vous faire une surface avec des cusps, mais ça va vous faire un pantalon avec des bords qui vont avoir des longueurs données par les décalages que vous faites. Et ça vous fait un pantalon avec des... C'est vraiment l'analogue discret de cette construction de géométrie hyperbolique. Voilà. Et ça m'amène à ma conclusion, qui est... Donc ça suggère qu'il y a quelque chose. Analogue discret de cette construction en géométrie hyperbolique. Je sais faire pour le temps pantalon, mais j'aimerais bien trouver quelque chose qui marche en topologie plus générale. Alors, est-ce qu'on pourrait faire des compositions en pantalon? Parce que, évidemment, si on a le pantalon, on pourrait faire des décompositions en pantalon, mais ce n'est pas encore bijectif. Et le premier problème, problème sur lequel on aimerait bien faire travailler notre doctorant Hugo Manet, c'est celui du tort. Et ce n'est pas la première analogie. Hein. Je dois mentionner, là, j'ai parlé d'autres travaux. Donc on a vu dans l'exposé de Bertrand ce matin que la récurrence topologique s'applique, ce formalisme-là s'applique bien aussi bien au volume de Valle-Peterson, comme on sait depuis les travaux de Mariam Mirzarani, qu'à l'énumération des cartes. Il y a des travaux très récents de Timothy Budd et de ses collaborateurs font une sorte de... on est dans le monde du genre zéro, donne un analogue des bijections que je présentais, la bijection CVS-BDG, pour les surfaces hyperboliques de genre zéro, et d'essayer de montrer et je crois qu'ils ont un résultat, je pense qu'ils n'ont toujours pas publié avec Nicolas Curien, pour montrer que, par exemple, une surface hyperbolique de genre zéro, avec n, juste avec des n-cusps, converge, dans un sens de Gromov-Sorsdorff, quand n tend vers l'infini, vers la sphère brownienne. Il y a ce résultat qu'ils ont annoncé, mais je crois qu'ils ne l'ont pas publié. Et ça repose sur une bijection, alors ce serait Cory Vauquelin, on peut plus généralement faire une bijection avec des bords, qui met les surfaces hyperboliques en correspondance avec des arbres, avec des indices, et c'est une transformation qui préserve la mesure, enfin qui transforme bien la mesure, et ça c'est très sympathique. Je dois mentionner aussi encore une dernière action qui serait plutôt les asymptotiques de type grand genre et l'universalité du spectre des longueurs. Donc dans les travaux de Mirzarani, Petri, le spectre des longueurs des géodésiques primitifs fermés sur les surfaces hyperboliques, qui sont montrés convergent en grand genre vers un processus de Poisson qui a une intensité explicite. Et il y a d'abord ce travail de Baptiste Clouf avec Svante Jansson qui montre qu'on retrouve la même distribution asymptotique dans le cas des cycles sains, pour les longueurs des cycles sains dans les cartes unicellulaires, les cartes à une face. Et puis il y a ce papier récent donc, de Simon Barazer, que j'ai peut-être encore dans la salle, Sandro Giacchetto et Ming-Kun Liu qui généralise avec un nombre fixé de faces quelconque. Et vraiment, voilà, je liste quand même des tas d'analogies qui me laissent à penser qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire là-dedans, et que c'est une direction intéressante. Je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.